content et pertinent. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bonjour et bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications pour l'Allier. Aujourd'hui, on parle d'enjeux autochtones et environnementaux avec nos trois invités. Tout d'abord, Aurèle Fanny Notcha-Engelieu, qui est doctorante en relations industrielles et présidente de l'Allier. Bonjour Fanny.
Bonjour Marie.
On a aussi au téléphone avec nous Mme Michèle Audette, adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone. Bonjour Mme Audette.
Oui, à vous.
Oui, effectivement, à vous. Un peu plus tard dans l'émission, on aura la participation de Anthony Cadoret, qui est de La Planète s'invite à l'Université Laval. On va tout de suite commencer la portion d'entrevue avec Mme Audette, si tu le veux bien.
Parfait. Bonjour Marie, ou bonjour Madame Odette. C'est un plaisir de vous avoir à Question de savoir. On avait une série de questions. Alors la première des questions, ce serait, est-ce que vous avez pris connaissance du rapport de la commission d'enquête sur la relation entre les autochtones et certains services publics? Et si oui, dans quelle mesure les recommandations peuvent-elles être appliquées à l'Université Laval?
Écoutez, j'ai pris connaissance en effet pour plusieurs raisons, parce qu'on tenait deux enquêtes là, simultanément, là, M. Vien et celle sur les femmes autochtones assassinées et disparues, et par la suite d'essayer de voir quand deux rapports vont être présentés pour le Québec, celui des femmes autochtones et de M. Vien, les alliances qui pouvaient être faites. Puis je vous dirais que sur les 100 et plus appels à l'action, il y en a beaucoup dans lesquels les institutions comme l'Université Laval, peut s'inspirer là, dans ses travaux quotidiens.
Parfait. Ben, je vous remercie pour ces réponses-là. J'avoue que j'ai échappé en bout de là. Mais par contre, je pourrais continuer avec la deuxième question. OK. Alors, pour ce qui est de la politique de réconciliation de l'Université Laval, quel est son statut actuel et quel travail resterait-il à faire selon vous?
Alors, son plan d'action, il est fait depuis plus d'un an avec la COVID. Là, malheureusement, on n'a pas été en mesure de l'annoncer. C'est un plan d'action qui va avoir été travaillé avec des experts du milieu autochtone, donc en éducation, soit des institutions qui œuvrent dans les écoles primaires et secondaires ou au niveau des supérieurs. Alors, c'est un travail aussi qui est fait avec l'expertise de Laval qui va proposer une soixantaine de recommandations. Et dans le plan d'action, on va le séparer dans des axes bien importants qui est comment assurer la réussite scolaire et le soutien de chaque étudiant autochtone qui vient au campus ou qui s'inscrive à l'Université Laval. comment créer aussi une relation avec la communauté universitaire et les partenaires autochtones pour assurer là, que les gens en deuxième ligne ou les organisations en deuxième ligne puissent accompagner et soutenir les étudiants autochtones. Puis, évidemment, tout le monde de la recherche et de la formation. Les gens qui ont écrit le plan d'action avaient de grandes ambitions, puis ça, je vais le caresser ou les soutenir, de vouloir offrir à tous ceux et celles qui veulent venir à U-Laval d'avoir l'opportunité de suivre une formation sur les questions autochtones, qu'elles soient historiques jusqu'à aujourd'hui contemporaines, et dans les facultés d'aller plus approfondie si, un exemple, faculté travail en médecine communautaire puisse aller un peu plus dans le contenu qui touche la médecine communautaire en milieu autochtone. Donc ça, c'est une volonté. C'est un rêve là, qui va être annoncé bientôt là, dans le plan d'action.
Parfait. Donc, ce serait prévu pour cette année, si on...
Oui, c'est une question de semaine.
De semaine, parfait. Bien. C'est très bien à ce niveau-là.
Puis, j'ai une question qui me vient en tête. Lorsque vous dites de travailler de concert avec des organisations qui travaillent, par exemple, pour les Autochtones, est-ce que vous allez travailler avec les associations étudiantes, par exemple, celles des associations des Autochtones de l'Université Laval? Pour ce plan d'action-là?
Ça a été fait. Elles ont été parties prenantes, là, les personnes de l'époque qui ont aujourd'hui leur diplôme et qui ont quitté nos jeunes diplômés. Là. Mais avec la nouvelle, il y a une représentante là, au niveau de l'exécutif. On attend toujours quels seront les choix là, de leur porte-parole. Mais ce sont des gens qui vont faire partie prenante là, de toutes les étapes. Un exemple que je peux vous dire, si on offre de la formation pour les étudiants et étudiantes qui s'inscrivent à Laval et qu'on veut offrir aussi de la formation pour le corps, pour ceux et celles qui travaillent, donc les professeurs, les directions, les services, les étudiants seraient aussi parmi ceux et celles qui donneraient la formation. Alors ça a été une belle recommandation qui émane de l'Association étudiante des Premières Nations.
Excellent.
Ça, c'est excellent. Puis ensuite, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des obstacles qui subsistent justement dans la mise en œuvre, lesquels?
Des obstacles, malheureusement, on va en retrouver partout, même à l'Université Laval. Des obstacles, des fois, parce que l'on se retrouve dans une situation là, mondiale au niveau de la pandémie qui fait que beaucoup de choses sont mises de côté. Mais à titre d'exemple, je vous dirais là, ce qui pourrait être un obstacle, c'est aussi le fait qu'on doit s'assurer que toutes les directions, les 17 facultés et toutes les équipes là au sein de l'Université Laval, qu'on puisse, quand l'annonce va être faite, leur dire bon ben à vous maintenant au sein de vos organisations ou de vos facultés de pouvoir insérer, ouvrir ou rendre hommage là à ces recommandations-là. Et donner vie au plan d'action. Les obstacles peuvent être le manque de ressources ou le manque de connaissances. Donc, il faut être patient, puis à nous, à l'interne, de s'assurer qu'on puisse leur donner tous les outils nécessaires.
Parfait. Et quels sont les apports que vous espériez, par exemple, d'une association comme l'Allier, justement, pour aider à faciliter ce processus-là?
Écoutez, en ce moment, il y a deux choses, puis j'aime beaucoup votre question. L'Association étudiante des Premières Nations est dans le Sierra ou de Coninck. Et j'espérais un jour, avec l'Allier ou la CADEL, de pouvoir avoir un dialogue et l'exécutif de l'association autochtone, de voir s'il n'y a pas lieu d'avoir sous un même chapeau des espaces temporaires, le temps qu'on puisse avoir le centre là, pour les étudiants, le centre autochtone, pour être dans un milieu où c'est assez dynamique. Mon bureau est à côté du vôtre, là. Ensuite, l'autre alliance, c'est aussi de voir jusqu'à quel point vos organisations, hein, vous parlez beaucoup avec la direction de l'université, vous êtes sollicité, sinon vous imposez, puis tant mieux, puis c'est important, de continuer à faire ce que vous faites de façon délicate. Je trouve que vous ne parlez pas au nom des étudiants autochtones, mais vous avez cette grande sensibilité-là, cette ouverture d'esprit, puis cette volonté de faire des choses avec nous, avec les étudiants autochtones. Donc ça, de le maintenir, puis d'être patient avec nous aussi. Hein, la mobilisation est peut-être pas la même ou la façon qu'on se mobilise n'est peut-être pas la même, mais de rester encore quand vous rencontrez la haute direction n'oubliez pas nos frères et sœurs là, des peuples autochtones.
Absolument. Je m'en irai vers une dernière question, Madame Odette, juste pour clarifier un petit peu. Il existe, il a été porté à notre connaissance qu'il existait un enjeu justement dans la reconnaissance, dans la formule de reconnaissance de territoire à utiliser le terme territoire partagé plutôt que non cédé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'enjeu qui existe? Est-ce qu'il y en a vraiment un?
L'enjeu peut-être pour le point de vue légal où je ne sais trop quoi vous dire, moi, de mon vivant, je préfère parler de territoire partagé. Je sais que ma nation n'a jamais cédé son territoire. Ça, on pourrait créer des débats. Mais aujourd'hui, en 2020, là, tu sais, comme maman, grand-maman, puis mes mocassins à l'Université Laval, je préfère être inclusive. Puis qu'après ça, dans nos cours d'histoire, parce que l'histoire est à refaire, on va comprendre qu'il y a bien des choses qui ont été enlevées, qui ont été imposées ou que la violence coloniale, on la subit encore aujourd'hui. Mais dans mon esprit de rassembleuse, dans mon esprit de vouloir faire les choses ensemble, ben je préfère dire que c'est un territoire partagé parce que soit on est complètement exclu ou soit les gens comprennent qu'en effet, on le partage depuis très longtemps. Québec veut dire débarquer de vos bateaux. Alors, on a été cool dès le départ, puis on l'est encore, pour ma part. Et nos juristes et nos leaders qui veulent rester sur le non-cédé, tant mieux. Mais le temps que je suis là, pour moi, ça va être plus l'amour et la façon de dire que je veux faire les choses avec tout le monde.
Parfait, nous vous entendons bien. Un dernier regard vers la société maintenant. Vous avez sûrement eu vent de la nomination Diane Lafrenière comme nouveau ministre des Affaires autochtones. Est-ce que cela représente pour vous une opportunité? Puis sinon, laquelle aussi?
Écoutez, si j'avais été consultée puis qu'on m'avait dit « qu'est-ce que t'en penses » avant d'aller vers ça, j'aurais été tout de suite celle parmi bien des gens qui l'ont faite sur la place publique après l'annonce. Êtes-vous sûr que vous voulez aller là parce que ça risque de faire mal déjà qu'on est méfiant, qu'on a peur, qu'on a démontré que les institutions vont par des biais ou par une façon de nous traiter différemment? On a eu des femmes qui ont dénoncé la police à Val-d'Or et ainsi de suite, que vous allez peut-être nourrir cette méfiance-là, cette peur ou cette frustration. Et si c'est le cas, ben préparez-vous. Et en même temps, on a besoin de former des gens du milieu pour qu'ils influencent leur propre milieu. Fait que des fois, je me dis, si Richard Desjardins a mis sa map les Anishinabés parce qu'il a fait son film « Erreur boréale », c'est un Québécois qui a parlé aux Québécois. Et là, si c'est un ex-policier qui parle aux policiers puis qui leur dit « Écoutez, on doit faire les choses autrement », c'est là-dessus que moi, je vais observer et peut-être marcher à côté de ce nouveau ministre-là pour être sûr qu'il y a des endroits où ça nous a fait mal, on a les preuves à l'appui. Ben toi qui connais cette culture et ce jargon, peux-tu nous aider à améliorer les relations et défaire la méfiance qu'on a?
Parfait. Ben, je vous remercie infiniment, Madame Odette.
Puis j'en profite merci. Aussi pour mentionner que vous serez parmi nous à notre soirée cinéma qui présente un film de la réalisatrice Cree, Tasha Hubbard. Ça sera vraiment une belle occasion pour nous de parler justement des enjeux autochtones, de voir un peu votre vision des choses. Puis je vous remercie pour cette participation en question de savoir, Madame Odette. Ça a été très enrichissant et éclaircissant comme information que vous nous avez donnée.
Maintenant, un gros merci, puis je vous souhaite, à travers cette pandémie, un rayon de soleil, puis une belle continuité dans vos études.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et on s'en va en musique avec une chanson de Florent Volant qui s'appelle Inou et You. J'espère que la prononciation ne fait pas défaut. Ça n'est pas ma langue maternelle. Mais on écoute ça à l'instant, puis par la suite, on va revenir avec un autre invité au téléphone.
Ishi ketakno iyo ishi inakno inno basam kunikam
Bataro, Mr. Gojo, Ishikatakno, Iyo, Ishwinakno, Ino, Ishikatakno, Ishwinakno, Tetwe Ino, Iyo. Tapish, I wash it. I stop to my Luna. Is you got that? No, is we knock? No, just you. You know, is you got that? No, is we knock? No, just you.
Nous sommes de retour à Question de savoir. Un tout nouvel invité se joint à nous, Anthony Cadoret de La Planète s'invite à l'Université Laval. Bonjour Anthony.
Bonjour Marie-Ève.
Donc, merci beaucoup d'être parmi nous au téléphone pour répondre à nos questions. Pour cette partie de l'émission, on va parler avec toi des enjeux environnementaux, entre autres celui du projet Laurentien. Qu'est-ce que c'est le projet Laurentien, un peu, si on peut l'expliquer en bref?
Oui, d'abord, pour le projet Laurentien, là, ça fait partie de la zone d'innovation littorale Est. Donc, c'est une zone technologique là, qui va avoir des secteurs là, comme la mobilité, la santé durable, la technologie propre urbaine et le milieu dit connecté. Donc, les critères sont assez souples là, et c'est inclus là, le projet Laurentien. Donc, le projet Laurentia, c'est le fameux projet d'agrandissement du port de Québec là, qui va augmenter significativement sa capacité. Donc, ça implique de creuser le fleuve dans la baie de Beauport, une augmentation du trafic maritime, du camionnage pour sortir les conteneurs du port, là, etc.
Parfait. Bonjour, Anthony. Voilà, Marie a très bien placé le décor. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir des étudiants militants sur le campus. Merci d'avoir défini à peu près c'est quoi le projet Laurentien. On en entend parler dans la presse. Plusieurs retombées positives ont été annoncées concernant le projet Laurentien, justifiant justement la mise en œuvre d'un tel projet. Est-ce que selon vous, ces retombées positives suffisent à justement éradiquer les effets, les impacts sociaux négatifs que pourrait avoir ce projet-là?
Eh bien, vous savez ce qu'on dit, là, la santé, ça n'a pas de prix. Présentement, là, il y a deux fois plus de cancers du poumon là, dans Limoilou que dans Sillery. Parmi les facteurs identifiés par la santé publique, le transport et l'industrie sont deux secteurs là, qui sont significatifs sur la qualité de l'air. Et puis, ces deux secteurs-là vont être développés là, avec le projet Laurentia. Donc, ça inclut là, plus de pollution de la qualité de l'air. Et puis, ça, c'est sans compter là, les impacts environnementaux. Je pourrais vous dresser une longue liste, là, mais parmi les plus notoires, là, il y a la destruction là, de l'équivalent de 72 terrains de football en milieu naturel, incluant là, un milieu de reproduction important là, pour plusieurs espèces là, dans la baie de Beauport. Et puis tout ça, ça s'en va dans une logique de croissance qui va pas là, qui est pas cohérente là, avec les objectifs du GIEC là, qu'il faut réduire là, nos émissions de gaz à effet de serre, avoir un maximum de 1,5 degrés Celsius d'augmentation. Donc avec ce genre de logique là, de toujours plus grand, ben on s'en va droit dans le mur là, et puis c'est en incohérence avec les objectifs là, de développement durable de l'Université Laval. Là. Donc, il y a beaucoup d'impacts négatifs. Et puis, pour les retombées positives, ben c'est mitigé parce que présentement, là, on ne sait pas grand-chose là sur les retombées positives. Il y a beaucoup là, la ville nous sort plusieurs chiffres là sur des dizaines de milliers d'emplois là, pour la zone d'innovation littorale Est, mais en réalité, là, leur méthode là pour calculer le nombre d'emplois qu'il va avoir est plutôt, mettons qu'il y a une c'est difficile de savoir, là, en fait. Les estimations sont pas précises.
Oui, on comprend surtout qu'on parle de création d'emplois dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, justement, on n'est pas dans une résolution de problèmes. Effectivement, donc là, on parlait justement des retombées économiques mitigées, mais par contre, les impacts sociaux, environnementaux, clairs. Puis comment expliquer donc justement que l'Université Laval s'engage dans un tel projet? Aux dernières nouvelles, l'Université Laval disait vouloir faire de ce projet-là un projet éco-responsable. Pensez-vous que c'est la place, le rôle de l'université d'en faire un projet éco-responsable? Jusqu'à quel niveau c'est possible? Et est-ce que l'intention première de l'université en soutenant ce projet-là, c'était justement d'en faire un projet éco-responsable ou c'était simplement de soutenir l'initiative gouvernementale telle qu'elle était mise en œuvre?
Oui, c'est sûr. Il faut prendre en compte le contexte là, universitaire au Québec là, où les universités sont en recherche de nouveaux financements, donc ils se tournent vers le privé. Donc, dans ce sens-là, le comportement de l'Université Laval là, est pas surprenant. Par contre, avec la planète Savite à l'Université Laval, on s'inquiète beaucoup de son implication dans le projet. Présentement, l'Université Laval est le partenaire principal du projet, même si ça va à l'encontre des objectifs là, de développement durable. Et puis, on s'inquiète là pour l'indépendance des chercheurs qui vont être soumis à des conflits d'intérêts là, s'ils veulent du financement là, pour leur recherche sur le port de Québec. Et puis, on s'inquiète aussi là, qu'il y a des chercheurs là, qui vont s'auto-censurer là, et qui vont décider de ne pas faire des recherches sur le port de Québec, considérant qu'ils vont avoir là, le vent d'en face, là, comme on pourrait dire. D'ailleurs, là, on a écrit une lettre ouverte là, pour dénoncer l'implication de l'Université Laval dans le projet, avec la planète s'invite à l'Université Laval. Et puis, il y a aussi des diplômés qui en ont écrit une. Puis la lectrice là, nous a répondu là, d'une lettre ouverte dans les pages du Soleil. Elle nous a dit là, qu'elle encourageait la discussion. Mais on se demande bien de quelle discussion elle parle, là, parce qu'il n'y a eu aucune consultation sur le sujet à date. Puis d'ailleurs, dans sa lettre, là, on voit bien qu'elle n'a pas l'intention là, de concéder quoi que ce soit.
Parfait. Je te remercie, Anthony. Et puis, pour sortir, qu'est-ce que la planète s'invite à l'Université Laval proposerait comme alternative, comme solution?
Et la planète s'invite à l'Université Laval propose qu'on écoute les citoyens et les citoyennes concernées. Soit les citoyens et citoyennes de Limoilou, Mézeray, Beauport. D'ailleurs, là, le Conseil de quartier de Mézeray, un organe de la Ville de Québec, a publié un document qui s'appelle le plaidoyer pour un littoral Est écologique, social et économique. C'est un document qui est basé là, sur 5 principes, là, donc la gouvernance, la biodiversité, l'habitation, la mixité des usages et la mobilité. Puis ce document-là, là, c'est une démarche précise à respecter pour évaluer la viabilité là, d'un éventuel projet de développement dans le secteur littoral Est. Donc, le document est basé sur des principes et puis il y a des critères qui sont associés à chacun de ces principes-là. Par exemple, là, dans le principe gouvernance, il y a un critère là, le projet s'assure que des ressources suffisantes sont mises à la disposition des citoyens et citoyennes pour supporter leur participation. Donc, ça, c'est le genre de critères qu'il y a dans ce plaidoyer-là. Donc, avec la planète, s'invite à l'Université Laval. On appuie ce document-là, puis on invite tous les acteurs là, concernés de la Ville de Québec là, qui veulent se mobiliser sur le sujet là, à appuyer aussi. Et puis d'ailleurs, ces personnes-là qui ont écrit ce document-là ont aussi créé une table citoyenne, la table citoyenne littorale Est, pour structurer là, la mobilisation là, sur le sujet. Mais c'est, pour l'instant, c'est surtout là, un lieu de rencontre là, pour tous les acteurs.
Parfait. Merci, Anthony. Bon, consentons que si un effort de consultation préalable avait été fait, ça aurait été l'occasion justement de mettre sur la table les différentes alternatives.
Et, tout à fait.
Effectivement. Enfin, je te remercie pour ta présence aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La question de savoir, c'est ce qui met fin à notre émission pour aujourd'hui. On a quelques petites annonces aussi. Pour cette semaine, c'est la conférence de l'achat public et de l'Université Laval qui s'appelle « Le stress responsabilité partagée », une conférence pour en savoir plus. Vous aurez la chance de voir trois panélistes qui pourront répondre à toutes vos questions sur le stress. Ça, c'est en Facebook Live demain dès 19h. La Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval et l'Allier sont fiers aussi de vous inviter au Café Rencontre des cycles supérieurs le 15 octobre prochain. Vous avez reçu dans vos courriels une invitation à y participer. Donc, vous pourrez suivre le lien et vous inscrire. C'est à 10h le 15 octobre. Vous pourrez répondre aux questions et la présidente de l'Allier sera présente avec la doyenne de la Faculté de la des études supérieures et postdoctorales, Mme Bastien. Et aussi, vous recevrez sous peu un avis de convocation pour le forum le 21 octobre prochain. Donc, vous pourrez vous informer sur les différentes, assurances complémentaires, un peu comprendre comment fonctionnent les assurances à l'Allier et comment fonctionnent ces assurances-là. Et aussi, vous recevrez un avis de convocation pour l'Assemblée générale extraordinaire qui reprendra où on l'a laissé la semaine dernière à l'Assemblée générale annuelle. Donc, c'est ce qui met fin à la question de savoir. Restez à l'écoute de CHIZ 94.3. Vous aurez d'autres émissions qui seront là. À midi, vous aurez les affamés qui seront là pour vous donner des nouvelles. Une bonne journée et restez à l'écoute de CHIZ.